Bonjour, je suis Céline Hussonnois-Alaïa. Un déferlement de témoignages pour dénoncer le sexisme et les violences sexuelles à l'hôpital. Après les accusations de harcèlement de la célèbre infectiologue Karine Lacombe à l'encontre du médiatique urgentiste Patrick Peloux, la parole des victimes se libère et dénonce le MeToo de l'hôpital. Anaïs est étudiante en médecine, en stage dans un service de chirurgie d'un hôpital parisien. Ce jour-là, elle exerce en binôme avec un chirurgien qui se trouve être aussi son supérieur hiérarchique. Entre deux opérations, la jeune femme et le chirurgien repassent dans le bureau de ce dernier, ce qui n'est pas inhabituel. C'est là que la situation prend une tournure à laquelle Anaïs ne s'attendait pas. Elle raconte la scène à BFM TV.
Je me suis retrouvée dans son bureau avec lui qui travaillait au départ. J'étais sur un fauteuil dans le bureau. Et puis, à un moment donné, il a fini par se rapprocher de moi, s'asseoir à côté de moi, à me fixer. Et il a fini par me dire « Là, ce dont j'ai très envie, c'est que tu retires ta culotte. » Et je ne sais pas exactement combien de temps a duré ce moment. J'étais un peu tétanisée. Et je sais qu'il a pris faim parce que la personne qui partageait son bureau est rentrée dans la pièce.
Des propos sexistes, des gestes déplacés et des médecins qui tentent de profiter de leur position hiérarchique jusqu'à l'agression sexuelle. La vague MeToo déferle depuis plusieurs jours sur le monde hospitalier, avec des témoignages de victimes qui se multiplient. Comme celui de Marie, en stage dans un service de chirurgie orthopédique. Elle témoigne pour BFM TV du harcèlement sexuel qu'elle dit avoir subi durant ses études.
Alors que je débutais tout juste ce stage, il y a un médecin, un supérieur hiérarchique, qui a commencé à me prendre à part pour me poser des questions personnelles directement, à savoir notamment, je pense qu'il a demandé si j'étais célibataire avant de demander mon prénom. Et il m'a ajouté sur Facebook très très rapidement ensuite. Et puis en fait, finalement, après les paroles, s'en est suivi des gestes à type de cuisse qui était touchée, il me claquait la cuisse, il pouvait, dans certaines situations, me toucher le dos par surprise le matin pour me dire bonjour en disant « mais c'est juste pour dire bonjour, t'inquiète pas », ou il pouvait me prendre le poignet avec force lorsque je refusais de le suivre pour le petit déjeuner par exemple, donc ça pouvait donner ce genre de choses.
Marie évoque une autre scène qui se déroule au petit matin, après une nuit de garde.
Il m'a en fait proposé de me faire un cours, ce qui n'est pas si anormal que ça. C'est-à-dire qu'en fait, en étudiant en médecine, il faut savoir qu'on travaille beaucoup. Et parfois, si un médecin nous dit « viens, je te fais un cours là-dessus cette nuit, sur ça prendra 5 minutes », on me dit « oui, pourquoi pas, et ça ne me choque pas, et je le fais moi-même avec des étudiants en médecine ». Par contre, ce que je ne fais pas, c'est faire ce qu'il a fait, à savoir, c'est m'isoler de l'unité en question. Donc finalement, je me suis retrouvée un peu toute seule dans un couloir, et puis j'ai marché longtemps jusqu'à ce qu'il y ait une chambre de garde, jusqu'à ce qu'il y ait la porte avec écrit chambre de garde senior en fait, et donc c'était sa chambre de garde à lui.
Un harcèlement qui serait presque banal, et qui ne semble choquer personne au sein du service où Marie effectue son stage. C'est, semble-t-il, le lot commun.
Service d'an, ça va passer, c'était plutôt ça quoi, on n'avait pas tellement de ressources.
Les gens n'étaient pas surpris en fait.
Non, ah non, il n'y avait aucune surprise.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est banal, en fait.
Tombe absolument. Ah, bien sûr, on ne tombe pas des nues. C'est dire que ça n'existe pas, c'est se voiler totalement la face. C'est admis, c'est permis.
À l'origine de cette vague de témoignages, l'enquête de la journaliste Anne Jouan, publiée la semaine dernière dans Paris Match, qui pointe les agissements de certains médecins. Parmi les soignants mis en cause, le célèbre urgentiste Patrick Peloux. Et parmi les victimes, la médiatique infectiologue Karine Lacombe sur le devant de la scène durant la crise Covid. Patrick Peloux nie formellement, comme le rappelle BFM TV.
Je n'ai jamais agressé personne, jamais. Oui, on était trop grivois comme on l'était alors, mais voilà, ce que nous disions et ce que nous faisions à l'époque est infaisable aujourd'hui, c'est sûr, mais on rigolait bien.
On rigolait bien. Ces mots-là provoquent la réaction outrée de Karine Lacombe, qui s'amusait bien, certainement pas les jeunes femmes, voilà ce qu'elle dit.
Oui, elle évoquait, elle, depuis des années, un prédateur à l'hôpital, mais ne donnait pas son nom jusque-là, parce qu'elle explique-t-elle que le problème est bien au-delà du cas Peloux. Il est systémique dans les hôpitaux. hôpitaux, c'est tout un environnement viriliste et toxique qu'elle dénonce.
Le phénomène semble en effet bien plus large, comme le montrent ces données alarmantes sur le sujet qui laissent entrevoir l'ampleur considérable du problème. C'est le constat de la neurologue Elsa Mana, membre de l'association Donner des ailes à la santé sur BFM TV.
Vous avez des chiffres assez édifiants, hein, puisque vous dites « Nous avons constaté que 78% des femmes médecins déclaraient avoir été victimes de comportements sexistes. 30% affirmaient avoir subi des gestes inappropriés à connotation sexuelle ou des attouchements sans leur consentement. »
Effectivement, les chiffres sont alarmant, mais ça reflète une réalité connue à l'hôpital. Ce n'est pas récent.
Le phénomène n'est pas récent et semble ancré dans les pratiques et les mœurs de certains médecins, regrette sur BFM TV Emmanuel Hay, le président du syndicat des internes des hôpitaux de Paris.
Nous, ça fait des semaines, des mois, des années, on essaye de faire sortir ça et qu'on est au courant de certaines personnalités problématiques, et malheureusement il y en a un certain nombre. On ne peut pas parler à la place des victimes, et si aujourd'hui la parole peut se libérer, on s'en réjouit.
Des réflexions sexistes sous couvert du légendaire « esprit carabin », sorte de folklore, de tradition des hôpitaux français. Détail sur BFM TV, Marine Sylvestre, vice-présidente du syndicat des internes des hôpitaux de Paris.
À la base, c'est plutôt un esprit de corps, c'est un humour pour nous permettre de gérer un
métier,
petit peu
ouais.
Ce qui se passe au quotidien, les souffrances qu'on voit tout le temps. C'était censé être cette aide-là qu'on avait, et ça a été un petit
C'est-à-dire
peu...
C'est-à-dire des blagues, l'esprit carabin, c'est des blagues salaces, des comportements...
C'est des blagues salaces, c'est les fresques pornographiques dans les salles de scène.
Résultat, un sexisme ambiant souvent banalisé, invoquant l'humour, la grivoiserie. À l'image de l'indignation de cette médecin à la retraite, atterrée par la polémique et le retrait d'une fresque pornographique du réfectoire des internes d'un hôpital toulousain. Écoutez sa réaction au micro d'Estelle Denis sur RMC en 2021.
Est-ce que ça vous choque qu'on puisse enlever cette fresque ?
Ah mais je suis atterrée. Parce que moi, je suis allée souvent en salle de garde. J'ai travaillé 4 ans à l'hôpital Saint-Antoine, où j'allais régulièrement déjeuner en salle de garde. Ces fresques-là, elles sont drôles. On y voit de la pornographie, mais il faut vraiment avoir l'esprit mal placé. C'est simplement une grosse rigolade entre internes. Faut rien voir de plus.
Pour la journaliste Anne Jouan, à l'origine de l'enquête publiée dans Paris Match, ce n'est pas Patrick Peloux le problème. Le problème, c'est la persistance de ce système de violence sexuelle à l'hôpital, dans les actes, dans les mots, écrit-elle.
L'hôpital n'est pas exempt de cette vague de fond qui touche l'ensemble de la société. C'est juste qu'aujourd'hui, on accepte enfin d'entendre et d'écouter les femmes qui parlent de ce problème. Ce que je veux dire par là, c'est que tout est sur la table, et c'est juste, je dis juste d'un point de vue ironique, c'est uniquement un problème d'écoute. La société, les directeurs d'hôpitaux, les gens à l'hôpital ne sont pas, n'étaient pas aptes jusqu'à encore pas si longtemps à entendre ce que les femmes disent et disent depuis longtemps en fait.
Une analyse que partage Anna Bechtor, vice-présidente du syndicat des jeunes médecins. Elle décrit un système historiquement masculin et féodal, faisant le lit de ces violences.
C'est un système construit féodal sur une hiérarchie pyramidale, avec des pleins pouvoirs de l'entre-soi, de la cooptation, et donc des gens qui se protègent les uns les autres, qui ont le pouvoir entre leurs mains. Et il ne faut pas oublier que 80% des professeurs universitaires sont des hommes, les présidents de CME sont majoritairement des hommes, donc les pouvoirs dans l'hôpital, en tout cas, ou dans le système de santé de manière générale, est entre les mains des hommes.
Une omerta, dénonce-t-elle. Mais avec le déferlement de témoignages, peut-être le début de la fin de cette loi du silence. Bonjour Marine Sylvestre.
Bonjour.
Vous êtes interne en médecine d'urgence, vice-présidente du syndicat des internes des hôpitaux de Paris. La semaine dernière, une enquête de la journaliste Anne Jouan, publiée dans Paris Match, a dénoncé les agissements de médecins accusés de harcèlement et d'agression sexuelle. Parmi ces médecins, le célèbre urgentiste Patrick Peloux et parmi les victimes, l'infectiologue Karine Lacombe. Ce qu'elle dénonçait déjà dans son livre « Les femmes sauveront l'hôpital » paru en octobre dernier. Elle évoquait un médecin prédateur et plus globalement une domination masculine misogyne qui pèse sur le milieu soignant. Ces violences sexistes et sexuelles, vous diriez qu'elles sont systémiques, Marine Sylvestre ?
Elles sont systémiques dans le sens où elles sont autorisées, passées sous silence, voire même encouragées par l'institution, oui, effectivement.
Vous-même, dans le cadre de vos études et de vos stages, est-ce que vous avez déjà été témoin de ce type de comportement ?
Oui, je pense que je mettrais n'importe qui au défi de trouver un interne ou une externe en médecine ou dans d'autres filières de santé d'ailleurs, hein, de vous dire qu'ils n'ont jamais vu ça. Ça se fait partout, tout le temps. Ça peut être dans du cadre social, les soirées étudiantes. Ça peut être dans du cadre professionnel à l'hôpital. Ça peut être dans le cadre de la formation à la faculté aussi. C'est vraiment sur toutes les facettes de notre expérience, effectivement.
Et ça concerne aussi bien les internes que les infirmiers, les aides-soignants, j'imagine ?
Oui, tout à fait. Il y avait un excellent livre d'ailleurs de Valérie Oslender qui est sorti il y a quelques années sur Omerta à l'hôpital où elle décrivait les abus de façon globale dans la formation notamment des paramédicaux, les collègues infirmiers. Et il y avait quelques cas effectivement de remarques sexistes, de violences qu'on appellerait sexistes sexuelles actuellement qui ressortaient déjà à l'époque.
Et comment les victimes réagissent ? Est-ce qu'elles peuvent se tourner vers leur hiérarchie ? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire dans ce genre de situation ?
En général, pas grand-chose. En tout cas, c'est l'impression qu'elles ont. J'avais quelques statistiques ici. Je sais qu'il y a au moins un quart des personnes qui sont victimes qui ne savent même pas vers qui se tourner. Parce que quand on en parle au chef de service, quand on en parle au coordinateur de notre formation, quand on en parle à des professeurs, même autres, il y a souvent ce plafond de verre sur lequel on se heurte en se disant « Non mais c'était une blague, tu ne vas quand même pas t'enflammer pour si peu, c'est
pas pris au sérieux. »
C'est pas pris au sérieux. Ou même parfois, c'est carrément ignoré dans le sens de « Ah non, mais ça c'est telle personne, on sait comment il est, t'inquiète pas, c'est normal, serre les dents, ça va passer. »
C'est banalisé.
C'est banalisé à l'extrême, oui.
Depuis que Karine Lacombe a confirmé l'identité de l'urgentiste prédateur qu'elle évoquait dans son livre, c'est toute une vague de témoignages qui émergent sur les réseaux sociaux, de femmes, elles aussi victimes, dans le milieu hospitalier. Vous l'attendiez, le MeToo Hôpital ?
On attendait vraiment ce moment où, à défaut de pouvoir simplement même en parler entre nous, au moment où on serait écoutés. Être écouté par la population générale, par enfin nos chefs, nos seniors qui se rendent compte peut-être de l'ampleur du problème, qu'ils ignoraient que vaguement, hein. ils le voient très bien, ils l'ont vécu eux-mêmes. Il y a cette prise de conscience politique aussi, et comme ça s'inscrit dans un mouvement qui est plus grand que nous, il y a eu la même chose dans les armées, il y a eu la même chose en politique, dans les médias, il y a eu des tas de mouvements similaires, on a vraiment l'impression de faire partie d'un flot et de se sentir soutenu et écouté.
Est-ce que votre syndicat recense les témoignages et est-ce que vous avez une idée de l'ampleur du phénomène ?
On recense les témoignages, on les recensait déjà historiquement, en fait, à chaque évaluation de stage, chaque semestre, on reçoit des retours, alors ça peut être du harcèlement sexuel à juste « j'avais pas de repos de garde », voilà, on a des soucis de tout ordre. Mais c'est vrai qu'on les recense particulièrement depuis cet appel de Karine Lacombe, voyant qu'on commençait à avoir quelques messages en disant « vous, qu'est-ce que vous allez faire pour faire quelque chose là-dessus ?» On s'est dit « ok, on lance un appel à témoins, on va se rendre compte un peu du problème là actuellement, et on a pris ça à bras le corps avec du coup des témoignages qui affluent depuis ces quelques jours. »
Et vous avez une idée de l'ampleur du phénomène ?
Sur là, depuis qu'on a commencé tout ça, depuis qu'on a mis en commun nos ressources sur ces 2-3 derniers jours, on en est à presque une cinquantaine de témoignages déjà rien que pour l'Île-de-France.
Ah, rien que pour l'Île-de-France.
Ouais.
Et est-ce que ça concerne particulièrement certains hôpitaux, certains services ?
Certains hôpitaux, pas spécialement. Certains services, c'est possible qu'on retrouve une tendance dans des services de chirurgie, d'anesthésie, réanimation, des milieux qui sont connus comme étant plus masculins historiquement, mais en soi, c'est qu'une tendance qui se dégage. On n'a pas encore d'études statistiques et surtout, c'est quand même très généralisé.
Quels sont les comportements qui reviennent le plus souvent dans vos témoignages ?
Souvent, ça va être des propos un peu déplacés. On a eu énormément de, pour le coup, d'exemples en chirurgie en disant « tiens les écarteurs et mets-les bien sur le côté, écarte-les bien comme tes jambes ». Ça va être des choses comme ça. Ça va être des gestes un petit peu, une main sur la cuisse, une main sur la fesse en passant, une main dans le dos. Et puis après, ça va le plus commun qu'on a comme agression, qu'on pourrait qualifier de plus grave, c'est quand même assez régulièrement des chefs qui vont s'immiscer dans les chambres de garde des internes ou qui vont prendre des photos pendant qu'elles se changent dans les vestiaires.
Comment expliquer que ce harcèlement et ces violences sexuelles soient presque banalisés, comme on disait, que ce soit admis et couvert même ? Karine Lacombe parle d'impunité, Anne Jouan, la journaliste qui publie l'enquête dans Paris Match, d'un système féodal, d'autres d'une omerta.
Une omerta, oui, du fait, je pense, de l'inertie créée par cet humour carabin qu'on a beaucoup. On a dans notre milieu hospitalier beaucoup de choses qu'on essaye de faire pour pouvoir mieux gérer au quotidien les souffrances qu'on voit, le rythme qu'on subit. Et ça se formalise parfois par des blagues un peu salaces, par des décorations un petit peu douteuses qui choqueraient n'importe qui ne fait pas partie de ce milieu, qui les verrait. Pour nous, c'est c'est courant, c'est banalisé, on a l'habitude, c'est quelque chose qui nous aide à la base. Là où ça devient un problème, c'est quand il y a ce retrait du consentement. Quand il y a un supérieur hiérarchique, quand il y a cette prise de pouvoir un petit peu et qu'on en profite, et quand on utilise le fait qu'une interne a bu en soirée, et que voilà, qui est en fait ce retrait de consentement, c'est là que ça devient très très problématique, effectivement. Mais il y a une impunité, quelle qu'elle soit.
Cette culture sexiste que certains présentent comme un esprit carabin, vous en parliez à l'instant, de quand ça date et à quel point c'est ancré dans le milieu hospitalier ?
L'esprit carabin, de la littérature que j'avais pu voir, il y a énormément d'études là-dessus, ça remonte à aussi longtemps que la médecine. Ça a toujours été de pair, c'était sous des formes parfois différentes, mais déjà dans l'Antiquité, c'était sur des illustrations qui pouvaient s'apparenter un petit peu douteuses pour des opérations, simplement pour dessiner à côté. Dans les années 50-60, en France, déjà, on n'autorisait pas trop forcément les femmes, mais quand on a commencé à autoriser les femmes, c'était... Bon, celle-là, on va se la faire déshabiller devant tout le monde. Ça va être des bizutages initialement. Et ça a évolué comme ça petit à petit, maintenant avec les réseaux sociaux, avec les jeux d'alcool, et puis avec ces remarques, du coup, qui se font plus ou moins isolément, mais qui se font toujours dans les services.
Vous en parliez à l'instant, la culture carabine, l'esprit carabin, notamment les fresques dites paillardes dans les salles de garde. On se souvient qu'en 2015, au CHU de Clermont-Ferrand, une de ces fresques représentant un viol collectif et impliquant la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, avait suscité la controverse. Ce genre de fresques, on en trouve toujours ?
On en trouve toujours, effectivement. En tout cas, pour l'Île-de-France, elles sont en voie d'être repeintes, remplacées. On est en train de faire des appels à projets, nous, à droite, à gauche, pour voir s'il y a des artistes qui voudraient peut-être faire quelque chose d'un peu plus sympa qu'un mur blanc d'hôpital. Mais effectivement, c'est voué à évoluer. C'est juste un peu long. Il y a toujours des mentalités qui sont attachées à cette partie du folklore parce que tout n'était pas négatif, effectivement. Mais encore une fois, dès lors qu'il y a des abus, dès lors qu'il y a des retraits de consentement, c'est des choses qu'on ne peut plus permettre en 2024.
Et je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez auparavant sur les témoignages donc, que vous avez collectés depuis plusieurs jours. Qui sont les personnes désignées comme harceleurs, comme agresseurs? Est-ce que ce sont des hommes, des femmes, des chefs de service?
Dans plus de la moitié des cas, ce sont des supérieurs hiérarchiques directs. Donc ça va être des professeurs, ça va être des chefs de service, effectivement. Et encore une fois, dans plus de la moitié des cas, ce sont des hommes.
Et en ce qui concerne les victimes présumées, voilà, est-ce que ce sont des hommes, des femmes? J'imagine plutôt des femmes. Est-ce
les
que
deux,
ce sont
mais
des
femmes,
internes, ouais. Des infirmiers, du personnel administratif?
Alors, je pense que toutes les tranches sont honnêtement touchées. J'ai moi-même été témoin de remarques à l'encontre de secrétaire médical, par exemple. Mais en tant que syndicat interne, on ne se focalise, nous, que sur les internes. Je sais qu'il y a l'ANEMF, le syndicat des externes, qui a fait un excellent travail en 2021 sur ce sujet, qui pourront vous en reparler un peu mieux. Mais en tout cas, ça touche toutes les tranches. Je sais que les infirmiers sont touchés. J'ai déjà vu des remarques sur des sages-femmes. J'ai vu des remarques sur des pharmaciens. J'ai vu des remarques sur des co-internes, voilà, hommes comme femmes ou non-binaires autres dans les services. Il y a un mélange de toutes les tranches, de tous les genres. Et ça se mélange aussi souvent avec des problématiques de racisme, des problématiques autres.
Et comment expliquer que ce soit banalisé? Voilà, c'était juste une blague, c'est juste de l'humour, c'est juste grivois. Comment expliquer que ce qui peut être du harcèlement sexuel, une agression sexuelle, est considéré par certains comme quelque chose de grivois? C'est d'ailleurs ce que dit dans l'enquête de d'Anne Jouan, Patrick Pelou.
Alors on va vous dire, c'est une autre époque. ma réponse à ça, ce sera surtout que c'est un esprit de corporatisme qui reste. On se protège un peu les uns les autres parce qu'à partir du moment où on va commencer à regarder ce que l'un a fait, on va se dire « Ah, mais attends, moi aussi je l'ai fait ». Et là, ça va être une réaction en chaîne. Et je pense que les gens ne sont pas encore tout à fait prêts à accepter cette réalité-là. Cette réalité qu'ils ont fait partie du problème à un moment ou un autre, que ce soit parce qu'ils ont été auteurs ou parce qu'ils ont été témoins et qu'ils n'ont rien dit à ce moment-là. Encore une fois, c'est peut-être parce qu'on ne connaît pas les interlocuteurs à prévenir, c'est peut-être parce qu'on a tellement l'habitude de voir ces choses-là que ça devient commun. C'est comme acheter des œufs au supermarché, hein. À ce stade, la blague, ça lasse de trop.
Et alors justement, pour les victimes, quels peuvent être les interlocuteurs?
C'est à l'échelle régionale, il y en a plusieurs. Là, par exemple, pour Paris, il y a nous, le syndicat des internes. Il y a des cellules qui ont été mises en place par les hôpitaux de Paris, la PHP, qui sont des cellules de violence au travail sur lesquelles on peut aller témoigner non anonymement pour qu'il y ait un retour qui puisse être fait. À l'échelle nationale, je crois qu'il y a des cellules qui sont en train d'être faites par le gouvernement qui s'appelle les CNAES, qui permettent d'avoir un soutien aux étudiants en santé de façon générale, mais qui peuvent prendre en charge ce type de problématiques. Et après, il y a des initiatives plus ponctuelles à droite à gauche. Je sais que nous, par exemple, on a en collaboration avec des bénévoles internes psychiatres une cellule qui s'appelle SOS-SIHP. Si les internes se sentent en grande détresse morale, ils peuvent joindre ce service à toute heure du jour et de la nuit pour avoir un soutien.
Merci Marine Sylvestre d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Je vous en prie, merci à vous.
Merci à Marie-Aimée pour la réalisation de ce podcast. Et merci à vous d'avoir écouté Le Titre et la Une. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro.
Vous avez aimé Le Titre à la Une, découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse au conflit entre Israël et l'Iran qui risquerait de conduire à une guerre du pétrole. L'Iran a lancé 300 drones et missiles contre Israël dans la nuit du 13 au 14 avril. Une réponse à la frappe attribuée à Israël contre son consulat à Damas. L'état-major de l'armée israélienne menace de riposter et Téhéran annonce répondre à la moindre action israélienne. Alors ce conflit fait craindre une nouvelle guerre du pétrole. Pourquoi ? J'ai posé la question à Pascal Samama, journaliste spécialiste de la question défense à BFM Business. La question info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute.